Vous écoutez
RMC.
Mardi 16 juin,
l'info sur RMC.
Merci d'être avec nous, 6h juste à la seconde près. Et Céline Kallmann est là pour vous, pour les dernières informations. Céline, bonjour.
Bonjour Jean-Jacques, bonjour à tous. Nouvelle soirée de tension à Dijon, des dizaines de personnes armées rassemblées dans le quartier sensible des Grésilles, 4 personnes interpellées. La clé d'étranglement en sursis, la technique d'interpellation est maintenue au moins jusqu'au 1er septembre. Les soignants dans la rue aujourd'hui, 220 rassemblements pour réclamer un meilleur système de santé. Bienvenue à tous sur RMC. Des tirs en l'air, des caméras de vidéoprotection visées, des poubelles et voitures incendiées. Pour la 4e soirée consécutive, Dijon a été le théâtre de tensions, de violences. Hier soir, les forces de l'ordre ont dû disperser des dizaines de personnes armées de barres de fer et d'armes de poing dans le quartier sensible des Grésilles. 4 personnes ont été interpellées hier soir. Thomas Chupin.
3 jours de violence et hier encore des rassemblements dans ce quartier des Grésilles. En rentrant du travail, Alain faisait l'état des lieux. Hier soir, il vit ici depuis 3 ans.
J'ai vu du feu partout, des voitures brûlées, des gens un peu surexcités et je ne reconnais pas mon quartier. C'est du dépit, oui, parce que je trouve que les gens du quartier ne méritent pas ça.
Tout est donc parti il y a une semaine avec l'agression d'un jeune d'origine tchétchène. Ses proches ont voulu le venger et ça a pris des proportions énormes, explique cet habitant du quartier.
C'est un peu la communauté tchétchène contre la communauté maghrébine. C'est dommage. Ce qui crée les conflits, c'est surtout l'argent. Les quartiers pourront dire pareil.
Et la communauté maghrébine qui hier soir a voulu aussi appeler au calme.
On veut que ça s'arrête. On veut pas faire la guerre. On veut pas de soucis avec eux. On a des parents, des enfants, des frères et sœurs.
Même appel au calme du maire François Rebsamen, l'un de ses adversaires au municipal. Emmanuel Bichot, lui, n'est pas surpris.
Ce que nous déplorons, nous, c'est qu'en fait, ce terreau communautaire des trafics et du trafic de drogue, eh bien, je dirais, il a pu se développer avec trop de facilité, trop de complaisance jusqu'à aujourd'hui. Et on en arrive effectivement ensuite à des guerres de territoire.
Et hier soir, le vaste déploiement policier a permis un retour au calme que les Dijonnais n'avaient finalement plus connu depuis 3 jours.
Le secrétaire d'État à l'intérieur, Laurent Nunez, est attendu sur place aujourd'hui. Le maire de Dijon, François Rebsamen, sera votre invité, Jean-Jacques, à 8h30 sur RMC. Des centaines de policiers... Oui.
Allez-y, continue.
Je continue. Des centaines de policiers se sont de nouveau rassemblés hier soir à Paris, Lille ou encore Nancy. Ils réclament des actes forts aux autorités qui ont finalement décidé de rétablir la technique controversée d'interpellation, la clé d'étranglement. Christophe Castaner en avait annoncé l'abandon lundi dernier. Finalement, Aurélia Manolis est en sursis.
En sursis, faute d'une autre technique pour la remplacer dans l'immédiat. Elle continuera d'être mise en œuvre jusqu'à la définition d'un nouveau mode d'interpellation. C'est ce qu'a indiqué hier dans une note le directeur général de la police nationale. Le ministre de l'Intérieur avait déjà annoncé la semaine dernière la fin de l'enseignement dans les écoles de police de cette technique qui permet par une pression au niveau du cou d'immobiliser une personne récalcitrante. Mais il n'avait pas précisé alors quand elle devait être abandonnée sur le terrain. Et cela avait provoqué la colère des policiers qui s'étaient sentis dépossédés d'un usage nécessaire à leur fonction. Les policiers aujourd'hui soulagés au moins pour un temps. La technique devra être utilisée avec mesure et discernement en attendant les conclusions en septembre d'un groupe de travail installé pour réfléchir à une méthode alternative.
Aurélia Manoli, les policiers mobilisés, les soignants également, manifestation aujourd'hui partout en France à l'appel de tous les syndicats, de tous les collectifs, journée d'action nationale pour réclamer un vrai changement dans le système de santé. Jean Brancardier à Paris appelle tous les Français à descendre dans la rue.
Je demande moi à la population de venir manifester parce que c'est pas que nous qui manifestons, mais c'est aussi le peuple. C'est aussi eux qui viennent nous voir et qui se font soigner. J'ai eu des patients qui m'ont demandé « Oui, vous faites toujours grève ?» Je fais « Oui, c'est un fait. » Ça veut dire qu'on est en manque de personnel, mais si on arrive à avoir ce qu'on veut et avoir du personnel, je ne vous souhaite pas de revenir, monsieur ou madame, mais quand vous allez revenir, les soins seront meilleurs.
136 milliards d'euros de dette en plus. Les députés ont voté cette nuit en première lecture un texte qui creuse encore plus le trou de la Sécu. Nous devrons le rembourser jusqu'en 2033, 9 années de plus que prévu. Les députés ont aussi voté la création d'une nouvelle branche consacrée à la perte d'autonomie. Le ministre de la Santé, Olivier Véran, a promis au moins 1 milliard d'euros supplémentaires pour la financer dès le prochain budget. Notez que l'attestation employeur n'est plus obligatoire dans les transports en Île-de-France à partir d'aujourd'hui. La France a enregistré 29 29 décès supplémentaires liés au Covid-19 dans les hôpitaux ces dernières 24 heures. En Chine, la situation est extrêmement grave, avertit ce matin le maire de Pékin. Des dizaines de nouveaux cas recensés, des quartiers entiers reconfinés. Les autorités ont aussi déclenché des tests massifs pour circonscrire les nouvelles contaminations dans la capitale. RMC 6h04, nous vous dévoilons un document ce matin, un enregistrement qui accuse Martine Vassal, candidate LR au municipal à Marseille. Elle est indirectement visée par une enquête sur des soupçons de fraude aux procurations. RMC s'est procuré en exclusivité donc l'enregistrement d'une colistière de la candidate Lionel Dian.
Dans cet enregistrement téléphonique, cette colistière de la candidate LR, Martine Vassal, propose à une électrice de remplir pour elle une procuration et de voter à sa place pour Martine Vassal, le tout sans passer par le commissariat, ni même signer cette procuration, ce qui est clairement illégal.
Je la remplis et après on la donne à un militant qui va voter pour vous. Vous n'avez qu'à m'envoyer votre carte d'identité recto verso, c'est tout, et je m'occupe du reste. Vous n'avez pas de démarche à faire. Moi, j'ai déjà tous les papiers pré-imprimés. J'ai une dizaine de photocopies qui sont déjà là, chez moi.
Une pratique qui scandalise les adversaires de Martine Vassal, notamment Yannick Ohanessian, candidat sur la liste menée par Michel Rubirola pour le printemps marseillais.
C'est scandaleux et en même temps, moi, je suis à moitié surpris sur ce secteur. Nous, au premier tour, par constat d'huissier, nous avions fait constater déjà un certain nombre d'anomalies concernant précisément ce problème de procuration.
De son côté, Martine Vassal a affirmé qu'elle n'était pas informée de telles pratiques, mais que si les faits étaient avérés, elle prendrait ses responsabilités avec les personnes qui les ont commis.
Et le gouvernement a annoncé le report du second tour des élections municipales en Guyane en raison de la circulation toujours active du coronavirus. Le scrutin est maintenu le 28 juin à Mayotte. Une amende au forfait pour le consommateur de cannabis ou de cocaïne à partir d'aujourd'hui dans les villes de Reims, Rennes et Créteil. Si vous êtes arrêté pour ce genre de délit par les forces de l'ordre, eh bien vous ne passerez plus forcément par la case tribunal, mais il faudra payer. Gladys Lafitte.
Dès aujourd'hui, les policiers de Créteil peuvent infliger une amende forfaitaire de 200 euros, 150 si elle est réglée dans les 15 jours, à toute personne étant prise en flagrant délit de consommation de cannabis en dessous de 20 grammes, Blaise Le Chevalier, commissaire divisionnaire.
Pour des petites quantités, des personnes qui sont pas connues ou peu connues de nos services, là on a un outil de verbalisation électronique qui nous permet d'infliger une amende rapidement et efficacement.
Moins de dossiers au tribunal et moins de procédures au commissariat, un grand pas en avant pour Blaise Le Chevalier.
L'idée, c'est de traiter rapidement les petites affaires et de pouvoir se concentrer sur des surveillances pour essayer d'établir de manière plus efficace des trafics de stupéfiants.
La consommation de stupéfiants est toujours punie d'un an de prison et de 3 750 euros d'amende, une peine trop peu prononcée pour les petites quantités, explique Éric Pouya, co-rapporteur d'une mission parlementaire sur le sujet.
La réponse pénale était très souvent un simple rappel à la loi. Donc, il y avait une difficulté à appliquer une réponse pénale ferme et réelle.
Une simplification testée dès aujourd'hui à Créteil, Reims et Rennes, puis à Marseille et Lille courant juillet, avant d'être généralisée partout à la rentrée.
Hollywood a dévoilé la date de la prochaine cérémonie des Oscars. Cérémonie repoussée 2 mois à cause de la pandémie. Ce sera le 25 avril 2021 et les réalisateurs auront aussi plus de temps jusqu'en février pour présenter leurs films dont les tournages ont forcément été stoppés pendant le confinement.
Merci Céline. On vous retrouve tout à l'heure à 7h. Le cannabis, donc les amendes vont se durcir à partir d'aujourd'hui pour la consommation de drogue, cannabis, cocaïne. Je vais en reparler avec Quentin Vinet tout à l'heure et si vous voulez réagir, 32-16 mc.fr. Certains sont inquiets, je le sens, face à ce qui se passe en Chine, en Inde, ou en Italie, ou au Portugal, ou même en Amérique du Sud, en Amérique du Nord, à propos du Covid-19, parce que ce Covid-19 n'est pas mort. Loin de là, l'épidémie circule encore, et je suis très heureux de recevoir tout à l'heure le professeur Eric Combe à 8h35, chef du service des maladies infectieuses de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris. Nous ferons le point, justement, sur cette épidémie. Il ne faut pas baisser les bras. C'est l'une des grandes voix de la crise. L'un des médecins que l'on a beaucoup entendu pendant la crise. Je suis très content de le retrouver tout à l'heure parce qu'il va pouvoir nous éclairer sur ce qui se passe un peu partout dans le monde et en France. Il est 6h09. Parlons aussi, et j'en parlerai au professeur Combe, parlons aussi des soignants. Les soignants qui vont se retrouver dans la rue, dans des rassemblements aujourd'hui, là à Paris, devant le ministère de la Santé, d'autres en province. 3 trois mois après le début de la crise sanitaire. Les soignants se donnent rendez-vous à l'appel de l'intersyndicale et de collectifs hospitaliers. Une manifestation inédite à Paris, 240 et en province, 240 rassemblements partout. Par exemple à Colmar, à Brest, à Foix, à Digne-les-Bains. Fini les applaudissements. Place au rassemblement, disent les soignants. Voilà le mot d'ordre de cette journée d'action nationale. Mais la population ne semble pas prête à les suivre. Romain Cluzel et Caroline Philippe ont suivi un membre du collectif Interhôpitaux.
Pacte à la main, Rémi tente de convaincre les passants de venir le rejoindre pour manifester, mais ce brancardier se heurte aux contraintes des uns.
Moi, je peux pas, moi je travaille.
Ou aux impératifs familiaux des autres.
Si j'avais pu, mais bon, là, j'ai ma vieille mère dont il faut que je m'occupe, voilà, mais sinon, oui, on y serait certainement.
Chez eux, tous, pourtant, ont applaudi à 20h, 55 jours durant, pour défendre l'hôpital public et soutenir les soignants. Élodie regrette de ne pas pouvoir être présente cet après-midi.
C'est quand même grâce à eux qu'on est soignés. On sait très bien qu'au moindre problème, c'est vers l'hôpital qu'on se tourne, vers le personnel médical. Donc je pense que c'est normal que nous, de notre côté, on puisse les soutenir. Même si je ne fais pas partie de ce milieu-là, j'attends plus. Pour eux, c'est quand même... ils donnent leur vie pour soigner les gens. Voilà, je pense que ça mérite plus qu'une médaille.
Amer, Rémi, jeune brancardier mobilisé pendant la crise, se sent oublié.
Ça fait mal, parce que pendant 2 mois, on a pu croire qu'enfin, on avait été entendu ou on commençait à être entendu. Depuis le déconfinement, il n'y a plus rien. Ça a cessé aussi comme ça a commencé. Voilà, il y avait un élan de solidarité qui nous a fait plaisir. Hein. Mais maintenant, on attend beaucoup plus d'eux. On a vraiment besoin qu'eux viennent avec nous, montrer au gouvernement que nous, par contre, ce qu'on réclame, c'est pas un effet de mode, c'est pas des applaudissements, c'est pas tout ça. C'est vraiment du concret.
Pour ceux qui ne peuvent pas rejoindre le cortège, Rémi leur propose de se mettre à nouveau à leur fenêtre à 20h pour les applaudir en signe de soutien.
Bien, il est 6h11 minutes, des rassemblements donc un peu partout. Hier, j'interrogeais assez fermement le ministre du Budget, Gérald Darmanin. Je lui demandais s'il allait verser, si la prime, pas la prime, les augmentations de salaire de 300 euros allaient être entérinées par le gouvernement. Oui, non, augmentation. Apparemment, il laissait entendre qu'il y aurait une augmentation de salaire de 300 euros pour les infirmiers et infirmiers, mais pour les autres personnels des hôpitaux, qu'en est-il ? Et d'ailleurs, où en est la fameuse prime pour les soignants, Quentin Vinet ?
Elle vient enfin d'entrer en vigueur, décret paru samedi au Journal officiel. Les montants ont un petit peu changé par rapport à ce qu'on a répété pendant des semaines. Alors la prime sera toujours de 1500 euros dans les 40 départements les plus touchés par l'épidémie, surtout les départements de l'Est, du Nord, de région parisienne et puis de Corse. Et ce sera 1000 euros. Dans les autres départements.
1000 et non pas 500.
Voilà, on parlait jusque-là de 500 euros. Finalement, ce sera 1000 euros. C'est ce qui est décrit dans ce décret.
Qui la touchera ?
Alors, le personnel des établissements de santé, les hôpitaux, donc des EHPAD aussi. Mais les conditions, par contre, n'ont pas changé. Pour la toucher à 100%, il faut avoir travaillé à 100% entre le 1er mars et le 30 avril. Sinon, la prime est réduite de moitié pour ceux qui ont loupé 15 jours. Et puis, pas de prime du tout pour ceux qui ont été absents pendant un mois. Et rien pour les aides à domicile, pas de prime en tout cas de la part de l'État, mais une prime départementale dans quelques départements, la Meurthe-et-Moselle et la Mayenne notamment.
Oui, parce que l'aide à domicile dépend de départements, hein, et non pas de l'État. Les départements doivent, de leur côté, effectivement, offrir cette prime pour tous ceux qui sont allés aider à domicile. Qu'en est-il des heures supplémentaires, important aussi ?
Les heures qui seront donc payées avant septembre, c'est ce que promet le gouvernement, majoré de 50%. Revalorisation aussi de 50% des gardes pour les médecins, les dentistes ou les pharmaciens qui ont travaillé dans les hôpitaux pendant la crise.
Eh bien, nous verrons, nous serons très attentifs. Il faut que l'État paye. Des promesses doivent être tenues. Rachida est en Seine-et-Marne. Bonjour Rachida.
Bonjour Jean-Jacques, bonjour tout le monde.
Merci, vous êtes infirmière, hein, Rachida.
Alors je suis infirmière anesthésiste.
Jean-Jacques. Infirmière anesthésiste. Est-ce que vous irez au rassemblement aujourd'hui ?
Alors écoutez, aujourd'hui non, je suis de garde, donc je suis assignée.
Oui.
Donc je ne peux pas y aller. Donc moi, ce que je suis très très en colère, il n'y a pas que moi qui suis en colère. Déjà, votre collègue a parlé de la prime. Alors sachez que la prime, déjà, tout le monde ne va pas la toucher. En plus, il y a des petits astérix à chaque fois, il faut faire ci, avoir fait cela. Tous les administratifs, Jean-Jacques, je suis énervée, je suis dégoûtée. Les administratifs qui ont été en télétravail, qui étaient chez eux, ils ont déjà touché la prime de 1500 euros.
Non.
Moi, je travaille dans... Si, moi je travaille dans un hôpital, je peux le dire, c'est à Créteil. Donc la prime, on va la toucher, j'espère, la fin du mois. Oui. La paix l'a touché avant les hôpitaux périphériques, ce qui est inadmissible. Donc les secrétaires qui étaient chez elles pendant le Covid, elles ont 1 500 euros. Et maintenant, si vous voyez dans les autres hôpitaux, si vous faites une enquête, ce que j'ai fait, eh ben la prime, elle n'est pas donnée à tout le monde, parce que c'est vraiment maintenant, on nous sort plein de petites conditions. Les heures sup, comme disait votre collègue, eh ben écoutez, on les a toujours pas. Elles sont pas majorées, on attend toujours de les toucher. Donc vous voyez, entre ce qui est dit, les promesses du gouvernement ne sont pas tenues. On a galéré non, comme des
En ce qui concerne les heures supplémentaires, oui. Je ne veux pas défendre le gouvernement, il a été dit qu'elles seraient payées avant septembre.
Oui, oui, enfin,
c'est majorées de 50%.
Oui, oui,
Rachida, non, nous verrons si elles sont payées ou pas.
Non, j'y crois pas, c'est du pipeau. C'est du pipeau, C'est pas vrai. On a galéré comme des malades pendant le Covid, et maintenant on nous a oubliés. Nous, on n'est pas des héros. Nous, on n'a jamais demandé qu'on nous applaudisse à 20h. Oui. C'est aujourd'hui, c'est maintenant qu'il faut se mobiliser. Le salaire d'une infirmière débutante, c'est 1 500 euros.
Bon. Si vous avez 300 euros d'augmentation de salaire, ça vous va ou pas ?
Par mois, oui. Bah oui, mais vous croyez qu'on va les avoir ?
Non, mais je vous pose la question. Est-ce que ça vous va ou pas ?
Oui, c'est bien. C'est déjà pas mal. Et puis, il faut une revalorisation des carrières. Et puis du matériel décent pour travailler à l'hôpital. Parce que je ne sais pas si vous avez déjà été hospitalisé ou malade. Oui. Mais quand on va à l'hôpital, on est content d'avoir des infirmières, du personnel compétent, avec du matériel qu'il faut.
C'est vrai.
Voilà.
C'est vrai.
Alors, parce que les grands, de ce monde, ils sont peut-être pas soignés dans tous les hôpitaux périphériques comme vous et moi. Voilà. Oui, moi je suis très énervée parce qu'il y en a ras-le-bol qu'on nous oublie. Ça y est, on nous a oubliés, on est les oubliés du Covid. Voilà. Je râle, moi je pousse mon coup de gueulante dès le matin. Mais
Ça fait du bien, Rachida.
Mais vous rendez compte? Oui, mais vous rendez compte quand même, Jean-Jacques, que les administratifs, ils ont touché la prime.
Oui, ça je comprends pas très bien. Ça je comprends pas très bien. Mais enfin bon. Merci Rachida, merci. Je serai dans un instant avec le professeur Jacques Rennes, qui est chef du service des maladies infectieuses au CHU de Montpellier. Je vais lui parler de cela et aussi du fameux test salivaire qui est mis sur le marché demain, je crois, aujourd'hui ou demain, avant la fin de la semaine, dans tous les cas. Vous vouliez dire quelque chose?
À Rachida. Que les auditeurs d'RMC n'oublient pas les soignants. Hein. Michel Thierry ira manifester. Sa femme, ses deux sœurs sont infirmières. Il ira manifester à Nice. J'ai aussi ce message de Lise Marie qui ira manifester cet après-midi. Nico qui finit sa journée à 7h. Il fera la sieste pour être à la manifestation à Tours à 15h.
Bien, il est 6h16. Le professeur Rennes dans 2 minutes. A tout de suite.
RMC 6h-9h.
Bourdin Direct.
Avec nous le professeur Jacques Rennes, chef du service des maladies infectieuses au CHU de Montpellier. Professeur Rennes, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous tôt le matin. Test de dépistage salivaire du Covid-19 appelé EasyCov, disponible à partir du 19 juin, à partir de la fin de la semaine, développé par les scientifiques du laboratoire 6 de Diaxé, le CNRS notamment, et les médecins du CHU de Montpellier. Professeur Rennes, ce test salivaire est-il... D'abord, comment pratique-t-on ce test ?
Mais on pratique ce test en prélevant de la salive et qu'on met dans un tube. Et donc, ce qui fait l'originalité de ce test, c'est que c'est un test rapide et qui permet d'avoir un résultat en 1 heure avec un matériel de réalisation qui n'est pas trop compliqué. Donc, on m'a dit, pas nécessairement dans un laboratoire d'analyse médicale lourd. Mais qui sera quand même dans un contexte médical dans sa réalisation et qui permet d'avoir une réponse rapide pour savoir s'il y a du virus ou pas dans la salive.
Est-ce que ce test salivaire est aussi efficace que le prélèvement nasal ?
Alors, les études qui ont été faites, pas simplement l'étude qu'on a menée, mais aussi d'autres études, montrent qu'on retrouve effectivement du virus dans la salive. Donc c'était un petit peu un défi parce que la salive est un milieu un peu particulier. Et effectivement, on trouve de bons résultats de sensibilité et aussi, surtout, on a très peu de faux positifs parce qu'évidemment, c'est très important de ne pas annoncer à quelqu'un qu'il est infecté alors qu'il ne l'est pas.
Mais bien sûr. Alors, que les choses soient claires, ces tests ne seront pas utilisés en laboratoire. Ils peuvent être utilisés, je ne sais pas moi, dans les aéroports, par exemple, ou à l'entrée d'un stade, d'une salle de spectacle ou autre, c'est cela ?
Oui, C'est ça, parce que la nécessité parfois est d'obtenir un résultat rapide pour une décision rapide et qui permet aussi de prendre des mesures pour la personne qui se retrouve positive, hein, savoir s'il y a nécessité de la prendre en charge médicalement par tel ou tel mode, donc soit de rester effectivement en confinement, soit éventuellement d'être pris en charge dans un hôpital. Et puis la décision collective, hein, c'est-à-dire de voir ce qu'il faut prendre comme mesure par rapport aux personnes contacts, et surtout pour limiter effectivement une contamination collective. Parce que c'est bien le problème là actuellement, c'est qu'on voit très bien qu'il y a très très peu de cas, et que ces cas, si on retrouve les conditions, on a vu le cas par exemple sur Toulouse, hein, où il y avait une cinquantaine de personnes réunies, et ben donc il y avait un cas positif, et il y a eu quand même pas mal de cas secondaires.
Allez, professeur Rennes, justement, est-ce que vous vous inquiétez un peu d'un possible retour de ce virus? Parce que la Chine, par exemple, je regarde les autorités de Pékin qui disent, je les cite, « la situation est extrêmement grave à Pékin, la situation épidémique ».
Oui, si on retrouve les conditions de diffusion, c'est sûr qu'il faut prendre des mesures de contrôle immédiat dès qu'il y a quelque chose qui apparaît. Donc c'est pour ça que ce type de test est intéressant, parce que il y a d'autres tests qui sont les tests sérologiques, la recherche d'anticorps, mais ça ne fait que traduire une infection ancienne ou relativement récente. Mais l'intérêt, c'est de dépister un virus qui est en circulation.
Bien. Alors, ce test, important aussi parce qu'il pourra faire la distinction, par exemple, entre une grippe et une infection à coronavirus, si jamais ça revient à l'automne.
Oui, alors, effectivement, un des grands problèmes qu'on va avoir, à mon avis, hein, c'est la problématique d'une coexistence de plusieurs infections, en particulier en période hivernale.
Moi,
le gros souci, ça va être, à mon avis, l'interrogation qu'on va avoir sur la période donc hivernale, savoir s'il va y avoir un retour ou pas. Et s'il y a un retour, effectivement, la gestion simultanément de deux épidémies parallèles. Et ce qui repose le problème, je vous entendais, la problématique des hôpitaux et de la prise en charge, où manifestement il y a eu une politique de réduction des lits. Et si on a de nouveau une situation épidémique qui cumule grippe et coronavirus, on sera dans une difficulté majeure de gestion.
Bien sûr, bien sûr. Comment ça se passe à l'hôpital? Ça gronde au CHU de Montpellier ou pas?
Relativement, mais je crois qu'il y a un problème général. Hein. Tous les hôpitaux sont plus ou moins concernés, hein, effectivement. Oui. Et il y a une vraie problématique. Hein. Je pense que le Covid n'a fait que révéler un certain nombre de choses. Elle a mis en lumière beaucoup de problématiques, mais de fond, il y a manifestement des actions à mener parce qu'il y a eu une dégradation significative dans les dernières années.
Bien sûr. Merci, professeur Rennes. Je précise que ce test est fabriqué en France, qu'il n'est pas remboursé par la Sécurité sociale. Il coûtera à peu près 30 à 40% moins cher qu'un test PCR. Merci beaucoup. Il est quelle heure? Il est 6h26. Le professeur Rennes était avec nous. Je vous rappelle que le professeur Eric Combes sera mon invité à 8h35. Nous allons faire le point sur le coronavirus. Tous les matins, trois histoires et trois images avec Charles Magnin. Charles, une nouvelle statue du général de Gaulle vandalisé.
Oui, on parlait hier de celle de Pavillon-sous-Bois en Seine-Saint-Denis ce week-end. C'est cette fois à Aumont, dans le Nord, qu'un buste du général a été recouvert de peinture et derrière la stèle, le mot esclavagiste a été tagué. La ville a évidemment porté plainte. Autre cas de statue vandalisée, cette fois dans Lot-et-Garonne, Villeneuve-sur-Lot. Un buste de Léon Gambetta a été arraché de son socle. Pas de revendication de cet acte. Et puis, en Belgique, c'est une statue de Jules César qui a été en partie arrachée et l'inscription crapule taguée sur le socle. Bref, le phénomène du déboulonnage venu des États-Unis semble faire des émules particulièrement stupides en Europe.
En Suisse, un appel est lancé pour retrouver le passager qui a oublié son or. Je dis bien son or, sur le siège d'un train.
Bah, ça nous arrive à tous d'être un peu tête en l'air.
Oui.
Mais là, il faut reconnaître qu'on atteint un certain niveau.
On se balade tous avec un sac rempli d'or.
Évidemment. Et bien
en Suisse, visiblement.
Évidemment. En Suisse, c'est visiblement plus banal. En tout cas, depuis 8 mois, la justice suisse est à la recherche du passager d'un train entre Saint-Gall et Lucerne. Ce passager a donc oublié à bord un sac contenant plus de 3 kilos d'or. Valeur estimée de ce petit trésor, 170 000 euros. Depuis 8 mois, les autorités attendent que ce passager se manifeste. test, hein, réclame son bagage. Sans succès, pas de nouvelles pour l'instant. Alors les Suisses ont décidé de rendre l'affaire publique hier et de lancer un appel pour tenter de retrouver le propriétaire de l'or. Et évidemment, depuis hier, des milliers d'internautes font savoir qu'ils sont ravis d'apprendre qu'on a enfin retrouvé leur sac égaré.
Je suis pas certain que le propriétaire de cet or ait très très envie de se faire connaître.
Il va falloir justifier.
Bon, le sondage du jour, les supporters de foot vivraient très mal le fait que leur enfant choisisse un autre club que le leur.
Et étude réalisée auprès d'un millier.
Ça va vous arriver, mon cher Charlemagne.
C'est pas près d'arriver, mais bon.
Vous allez voir, vous verrez.
On en parlera en famille. 83% de ces fans de foot interrogés s'assurent que leur enfant supporte bien la même équipe qu'eux. D'ailleurs, 26% des parents avouent que ce serait un crève-cœur que leur enfant ne porte pas les mêmes couleurs. Bah oui, si par exemple, au hasard, un papa supporter du Nîmes Olympique voyait son fils porter un maillot de Montpellier, ce serait un crève-cœur.
C'est le cas.
Déjà que mon fils est supporter du Paris Saint-Germain avant d'être supporteur de Nîmes Olympique, déjà qu'il joue rugby avant de jouer au football, ça fait beaucoup là.
Ça crée des tensions. Oui. En tout cas, le foot, c'est une vraie histoire de famille. 15% des sondés avouent même qu'ils planifient les vacances en famille en fonction du planning des matchs.
Bien, merci Charles. Ah tiens, quelques mots sur Neymar. Où est-il Neymar?
Il est rentré.
Il a repris l'entraînement.
Non, il a atterri à Paris samedi, mais il a directement filé à Saint-Tropez, il y passe, sa dernière semaine de vacances. Sur les réseaux sociaux, on peut le voir y faire la fête avec son coéquipier Marco Verratti. Et à la vue des photos, le préparateur physique du PSG a dû avoir quelques sueurs froides.
Quelques sueurs chaudes.
Oui, petit matin.
Il est 6h29, la machine à café. Le 32-16, la touche 50 invités.
Et le bon matin par SMS, 7-32-16.
À suivre, il a volé, torturé, dépecé, poignardé, tabassé et fini par tuer une quinzaine de chats. Un homme de 39 ans, condamné à 10 mois de prison avec sursis pour acte de cruauté envers un animal. Maître Catherine Berthold, avocate d'une association partie civile dans ce dossier, est avec nous juste après le journal de 6h30 sur RMC.
Il est 6h30, Pierrick Bonneau est là. Les infos, Pierrick, bonjour.
Bonjour Jean-Jacques, bonjour à tous. Les policiers lyonnais mobilisés contre la haine anti-flic, c'est en tout cas c'est comme ça qu'ils l'appellent. Une centaine de fonctionnaires rassemblés hier soir à Lyon après l'agression d'un de leurs collègues dans la nuit de samedi à dimanche. À la une également, cette interview du Premier ministre ce matin dans le journal Paris-Normandie. Édouard Philippe confirme qu'il restera à Matignon s'il est élu maire du Havre, mais ajoute qu'il pourrait quitter le gouvernement bien avant la fin du quinquennat. Et puis le télétravail, fan ou pas fan, alors que votre patron vous a peut-être déjà demandé de revenir au bureau, est-ce que vous préféreriez rester chez vous? On vous a posé la question. Bon réveil, bienvenue à tous. Voilà qui ne va pas calmer la colère des policiers, bien au contraire. Une enquête ouverte à Lyon après l'agression ce week-end d'un de leurs collègues, roué de coups en raison de ses fonctions, selon le parquet. L'agression a eu lieu devant chez lui, alors qu'il n'était pas en service. Émotion chez ses collègues lyonnais, déjà pointés du doigt ces dernières semaines par la mobilisation contre les violences policières. Un rassemblement avait lieu hier soir devant le palais de justice de Lyon. Reportage d'Héloïsa Patricio.
Ils étaient une centaine devant le tribunal de grande instance de Lyon pour montrer leur soutien à Alex, leur collègue agressé. Parmi eux, Alain Barbery, secrétaire départemental d'Alliance Police.
On s'aperçoit que cette haine anti-flic, elle n'a plus de limites. Donc oui, le personnel, les forces de l'ordre sont choquées.
L'agression s'est déroulée samedi soir dans des circonstances encore floues. Le policier en civil rentrait chez lui avec sa compagne lorsqu'il a été passé à tabac devant son domicile. David, policier, est encore sous le coup de l'émotion.
Là, on est sur un rassemblement pour un collègue qui s'est fait lyncher. Il n'y a pas d'autre mot, à 12 sur lui. Voilà, c'est ce que j'appelle de la violence à son paroxysme, quoi.
Thomas travaille lui aussi en police secours de nuit dans l'agglomération lyonnaise, comme son collègue agressé. Il fait part d'une violence quotidienne.
C'est toutes les nuits, parfois plusieurs fois par nuit. Donc ça va du simple tapage jusqu'à l'accident de la route, les agressions, les violences.
Tous attendent désormais des actes forts de la part du gouvernement.
À Dijon, retour au calme ce matin après une nouvelle soirée agitée. Pour la quatrième soirée consécutive, les forces de l'ordre ont dû disperser un groupe d'hommes cagoulés et armés de barres de fer après trois expéditions punitives. Expéditions punitives menées par des membres de la communauté tchétchène au cours du week-end. Les habitants du quartier des Grésilles n'en peuvent plus de ces violences à répétition.
Tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, c'est pas rien, quoi. Des armes, des affrontements violents, c'est rarement aussi spectaculaire, en fait.
On a entendu des armes, en fait, péter.
Personne n'osait venir. Dès qu'on entendait un bruit, on faisait demi-tour, quoi.
C'est très dangereux, parce que les armes à feu, c'est chaud, quoi.
Il n'y a pas assez de sécurité, déjà, d'une part, et puis après, bon, on est un peu oppressé par tout ça, quoi.
Et nous sommes à 12 jours seulement du second tour des municipales. Édouard Philippe donne ce matin une interview au quotidien Paris-Normandie où il confirme qu'il va bien rester à Matignon s'il est élu maire du Havre. Mais le chef du gouvernement indique aussi qu'il pourrait être de retour dans son fief beaucoup plus tôt que prévu, Benjamin Smadja.
Oui, on le sait, un important remaniement gouvernemental se profile et il pourrait bien mettre en balance le sort d'Édouard Philippe dans Paris-Normandie ce matin. Le candidat à la mairie du Havre le dit, il entend bien redevenir maire dès lors qu'il ne serait plus Premier ministre. Si Emmanuel Macron pense que je dois continuer à Matignon, j'assumerai mes responsabilités. S'il pense que quelqu'un d'autre est plus utile, je respecterai son choix en toute loyauté, dit-il. Et puis Édouard Philippe poursuit. Si les électeurs me font confiance, je serai de retour au Havre au plus tard en mai 2022. Mais peut-être beaucoup plus tôt, une façon de rendre crédible le scénario de son remplacement. On le rappelle, au premier tour, Édouard Philippe était arrivé en tête avec 43,6% des voix, devant son concurrent communiste Jean-Paul Lecoq avec 35,8% oui. des voix.
Il dit au plus tard.
Voilà,
en mai 2022. Ça veut dire qu'il ne sera pas candidat à la présidence de la République.
En tout cas, si on lit entre
quoi qu'il arrive.
Il dit.
Bah, d'après ce qu'il dit.
D'après ce qu'il dit.
Oui, bien.
On suivra ça.
Bon, évidemment qu'on va suivre ça avec attention.
Pendant ce temps, les députés de l'opposition s'y préparent. C'est le début ce soir des travaux de l'une des deux enquêtes parlementaires sur le Covid-19 à l'Assemblée, avec l'audition à 17h du directeur général de la Santé, Jérôme Salomon. Objectif, répondre à toutes les questions liées à la gestion sanitaire de la crise. Les acteurs de la santé en France vont devoir rendre des comptes, Paul Barcelona.
Stock de masques, mise en œuvre des tests, les députés de la commission d'enquête se sont donné 6 mois pour faire toute la lumière sur les dysfonctionnements survenus pendant la crise. Plusieurs auditions sont déjà à l'agenda, notamment celle des derniers directeurs généraux de la santé et de Jean-François Delfraissy, le président du conseil scientifique. Les députés convoqueront ensuite le ministre de la Santé et certains de ses prédécesseurs ou encore le très controversé professeur Didier Raoult. Au programme aussi, des investigations dans les EHPAD où plus de 10 000 résidents sont morts, soit près d'un tiers du nombre total de décès en France. C'est l'un des gros points noirs pour le gouvernement. Mais les travaux de cette commission pourraient se télescoper avec le calendrier judiciaire. Le parquet de Paris a en effet ouvert la semaine dernière une enquête préliminaire sur la gestion de la crise par les pouvoirs publics.
Et pendant que le directeur général de la Santé répondra aux questions des députés, les soignants, eux, seront dans la rue. Mobilisation nationale à l'appel de plusieurs syndicats et collectifs hospitaliers pour demander plus de moyens dans les hôpitaux 3 mois après le début de la crise sanitaire. Départ du cortège parisien à 14h du ministère de la Santé. 240 rassemblements au total sont prévus dans toute la France. En Chine, les propos alarmistes de la mairie de Pékin ce matin. Un porte-parole estime que la situation épidémique dans la capitale chinoise est extrêmement grave. Plus d'une centaine de personnes ont été contaminées par le coronavirus depuis la semaine dernière à Pékin. Selon ce porte-parole de la mairie, Pékin est engagé dans une course contre la montre pour éviter une deuxième vague. Et vous, êtes-vous retourné sur votre lieu de travail depuis le début du déconfinement ? Depuis plusieurs semaines, les entreprises rappellent leurs salariés, plus ou moins progressivement. Hier, le ministre de l'Économie et des Finances rappelait que le télétravail restait souhaitable, mais selon Bruno Le Maire, ce n'est pas la solution définitive globale pour tout le monde du travail en France. Mais sommes-nous prêts à reprendre le travail comme avant ? Reportage à Paris, signé Romain Poiseau.
Après 3 mois en télétravail, Florence, conseillère dans le milieu culturel, doit retourner travailler au bureau, un peu à contre-cœur.
Je pense qu'on s'est tous rendu compte qu'on pouvait faire beaucoup de choses en télétravail. On peut souffler quand on a besoin de souffler, voir nos enfants un peu plus le matin, et voilà. Et en même temps, au bout d'un moment, on n'a pas le rythme finalement du travail qui, avec des échanges avec les collègues, avec les rendez-vous clients et tout ça.
Alors pour Florence, le compromis serait de négocier auprès de son employeur au moins un jour de télétravail par semaine.
On a vécu 100% en présence. 100% télétravail, bon bah là le juste milieu, un peu des deux quoi.
Le télétravail oui, mais à petite dose. Pour Benoît Serre, vice-président de l'Association Nationale des DRH, les entreprises veulent retrouver un rythme normal pour ensuite songer au télétravail.
Un peu de télétravail, pourquoi pas ? Mais la première chose c'est retrouver un modèle de fonctionnement et de productivité normal, juste normal. Le télétravail 100% du temps, c'est le délitement assuré de l'entreprise.
Et pour lui, il faut que le gouvernement assouplisse au plus vite les règles sanitaires pour que les entreprises reprennent une activité normale.
Et plus de télétravail pour les chevaux. Hein. Les courses, c'est à Dieppe cet après-midi, Mathieu Roux.
À 13h50, à vivre en direct sur RMC Découverte, le canal 24 de la TNT. Le pronostic de la Dream Team des courses RMC favori numéro 4, Post-War Outsider, c'est l'As, Simply Striking, le 4, hélas.
Bien, Pierrick Bonneau revient tout à l'heure, Mathieu Roux reste avec moi. Et puis, je précise que mon invité tombe bien ce matin, le professeur Éric Combe, qui est chef du service des maladies infectieuses et tropicales à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Pourquoi tombe-t-il bien ? Bien parce que d'abord, c'est une des grandes voies de la crise. Vous vous souvenez du professeur Combe. Mais il tombe bien parce qu'on s'inquiète un peu partout dans le monde d'une résurgence de ce virus. Enfin, résurgence. Réémergence, je dirais, de ce virus du Covid-19. Dans plusieurs pays, notamment la Chine, on reconfine dans plusieurs pays du monde et ça reconfine en Chine, Quentin Vinet.
On vient de le dire, hein, la situation est jugée très préoccupante à Pékin, capitale chinoise. C'est ce que dit la mairie cette nuit. Désormais, une vingtaine de quartiers de Pékin sont à nouveau en quarantaine. Ça vient certainement d'un foyer de contamination détecté sur un marché au gros à Pékin. L'équivalent du Rungis pékinois. Plus de 100 cas de coronavirus, disait hier soir l'OMS. Encore une vingtaine, dit Pékin ce matin. Une campagne massive de tests a donc été lancée. Une enquête est en cours pour connaître l'origine de ce cluster XXL, en quelque sorte, dans une trentaine de zones résidentielles. Et les enfants ne sont plus obligés d'aller à l'école.
Oui, ça reconfine aussi en Inde.
15 millions d'habitants vont devoir rester chez eux à partir de vendredi dans la grande ville de Chennai. C'est sur la côte Est, au bord de l'océan Indien. Là-bas, les sorties seront très encadrées. Pourquoi ? Eh bien parce que l'épidémie est encore très virulente, selon les autorités. L'Inde recense plus de 9000 morts et l'épidémie fait toujours des ravages là-bas, malgré le confinement qui a été imposé dans un premier temps.
Ça reconfine aussi en Europe, dans certaines régions ou villes, en Italie et au Portugal.
C'est ça. En Italie, dans un hôpital et dans un immeuble de Rome, la situation est sous contrôle, disent les services de santé. Mais dans l'immeuble en question, les courses sont livrées quand même aux habitants par la Croix-Rouge. Et puis au Portugal, il y a eu un mini-confinement à Lisbonne la semaine dernière. 300 cas en moyenne par jour. C'était plus qu'il y a deux semaines, par exemple. Et pendant 5 jours, la semaine dernière, les sorties étaient limitées et les bars devaient fermer plus tôt.
Bon, ça s'est calmé au Portugal, apparemment.
Au Portugal, a priori, ça va mieux, oui.
Bon, eh bien, nous ferons le point avec le professeur Combe tout à l'heure à 8h30. Parce que ce virus rôde, il est toujours là. Ne nous leurrons pas. Vincent est avec nous en parler des personnels soignants, parce qu'ici nous sommes à l'écoute du personnel soignant, de ses difficultés, de ses revendications. Vincent, par exemple, qui est à Versailles, dans les Yvelines. Bonjour Vincent.
Oui, bonjour.
Merci d'être avec nous. Votre femme est infirmière dans un EHPAD privé.
Oui, c'est ça, tout à fait.
Bon, quelle est sa situation? Elle a fait de très nombreuses heures supplémentaires, je crois.
Oui, là, depuis le début de l'épidémie, du coup, elle a fait quasiment, elle est à plus de 50 heures sup de réaliser. On lui a annulé deux fois ses vacances, les vacances qu'on avait mis au mois d'avril.
Oui.
Et là, on lui a dit que cet été, pour l'instant, il pouvait avoir que 15 jours de vacances au lieu de 3 semaines prévues.
D'abord, est-ce que les heures supplémentaires seront payées ?
En théorie, elles sont censées être payées. Maintenant, c'est comme la prime du gouvernement. Ils ne savent pas quand ni comment. Et là, apparemment, elle a discuté hier avec son assistante de direction qui a eu une note ce week-end comme quoi la prime prévue par l'État de 1500 euros, elle serait réservée uniquement au personnel des EHPAD publics et non pas au personnel des EHPAD privés.
Là, elle travaille pour un EHPAD privé. Hein, bon, là, c'est pas l'État. Elle ne dépend pas de l'État. Elle dépend de cette entreprise privée.
Tout à fait.
On est d'accord. C'est entreprise privée qui ferait bien quand même de faire un effort, me semble-t-il. Hein, Vincent, ça, vous êtes ulcéré. Je le comprends.
Oui.
Les heures supplémentaires doivent être payées. L'État s'est engagé, nous verrons bien, à payer avant septembre les heures supplémentaires majorées de 50%. J'aimerais bien que dans le privé, on fasse au moins aussi bien que l'État.
Je pense que c'est la moindre des choses, d'autant plus qu'il me semblait avoir entendu durant l'épidémie que le public et le privé devaient être solidaires et ensemble contre le virus. Donc pourquoi il y a des différences après?
Exact.
Ce qui n'est pas logique, quoi.
Bon, Vincent, tenez-nous au courant, parce que là, on va accumuler un peu tout cela, et dès que j'ai le ministre de la Santé ici, il va venir rapidement, je vais être très précis, parce que ça, quand on fait des promesses, on doit les tenir. Et les entreprises privées, notamment qui gèrent les EHPAD privés, doivent faire des efforts, absolument. Il est 6h42. Allez, je vais prendre Caroline. Est-ce que j'ai le temps de prendre Caroline? Oui, je vais prendre Caroline, dans les Pyrénées-Orientales. Bonjour Caroline.
Bonjour Jean-Jacques Bourdin.
Vous êtes infirmière, vous aussi?
Oui, je suis infirmière anesthésiste, oui.
Anesthésiste.
Au bloc opératoire de l'hôpital de Perpignan.
Bien, est-ce que vous allez toucher une prime?
Alors, nous, on a eu des notes d'information, donc après les décrets, le premier décret, donc nous sommes sur la liste des hôpitaux de deuxième ligne, donc le directeur nous a envoyé une note d'information comme quoi nous toucherions les 500 euros à la fin du mois de juin.
Par alors, contre, attendez, apparemment, oui. Ce sera 1000 euros, si je comprends bien.
Non, le décret, il y a eu un nouveau décret qui est sorti le 8 juin.
Oui.
Vous pouvez vous renseigner. Le 8 juin, il y a eu un décret qui est sorti, ou le 12 peut-être, hein, je ne sais plus, comme quoi donc nous toucherions 500 euros. Par contre, les 1000 euros, puisque nous faisons partie de ces hôpitaux qui sont susceptibles de toucher la prime des 1500 en tout,
oui.
les 1000 euros, nous les toucherions à la fin du mois de juillet, mais sous certaines conditions, c'est-à-dire que c'est le directeur qui doit trancher sur le nombre de personnels qui touchera ces 1000 euros, avec un maximum de 40% de ces personnels. C'est-à-dire qu'on va faire le tri parmi ces personnels qui se sont mobilisés pendant toute la crise.
Oui, mais Caroline, oui. Il est normal, par exemple, que le personnel administratif qui était chez lui en télétravail ne touche pas une prime que le personnel soignant qui était sur le terrain touche.
C'est sûr, mais par contre, le personnel administratif a touché les 500 euros, hein, puisque pour tout le monde.
Oui, pour tout le monde.
Mais les 1000 euros supplémentaires ne seront attribués qu'aux 40% du personnel de l'hôpital. Et c'est le directeur qui va arbitrer. On n'a toujours pas la décision. On ne sait pas si on va faire partie ou non. Normalement, oui, puisque nous, le bloc opératoire, on s'est transformé en réanimation.
Oui,
on est allé travailler en
réanimation. Vous allez la toucher. Hein. Ou alors c'est scandaleux.
On espère. Mais on ne sait pas. Pour l'instant, on ne sait pas.
Bon, écoutez, voilà. Caroline, soyez attentive et vous nous rappelez si vous ne la touchez pas, hein, Caroline.
D'accord.
Parce
okay.
que on est là pour veiller. Moi, je peux rien décider, hein, mais je voudrais que cette prime soit versée correctement et comme prévu et que les promesses soient tenues. Il est 6h45, 7h moins le quart, à tout de suite.
RMC.
RMC, 6h-9h.
Bourdin direct.
Il est 6h49. Maître Catherine Berthold, bonjour.
Bonjour Monsieur Bourdin.
Vous êtes l'avocate de l'association Boule de Poil. Alors Boule de Poil, c'est une association qui défend les animaux, hein, si j'ai bien compris. C'est
oui,
ça.
Tout à fait. C'est une association qui a en fait pour but la protection, le respect des animaux.
Oui.
C'est qui est bien connue dans notre département de la Haute-Saône.
Bon, alors dans la Haute-Saône, à Vesoul, entre mars et juillet 2019, l'année dernière, 14 propriétaires de chats ont déposé plainte au commissariat après la disparition de leur animal. Les enquêteurs ont travaillé, ont identifié un homme de 39 ans qui s'amusait entre guillemets à voler, à torturer et à tuer des chats. Je dis s'amuser évidemment entre guillemets parce que c'est horrible. En garde à vue, le trentenaire a reconnu avoir volé plusieurs chats qu'il capturait à l'aide d'un laisse-coller. Il explique qu'on lui envoyait des images de chats morts sur Facebook et qu'il pensait qu'on lui avait jeté un sort. Enfin, il avait un peu perdu la tête. Enfin, il capturait les chats, les torturait et les tuait. Horreur de ces actes. 14 chats qui ont été massacrés. Des plaintes ont donc été déposées. Et cet homme a été condamné. À quoi a-t-il été condamné, Maître Berthold?
Alors, il a été condamné à 10 mois d'emprisonnement avec un sursis probatoire, avec obligation de soins, d'indemniser les victimes pendant 3 ans. Et en peine complémentaire, il a eu une interdiction définitive de détenir un animal.
Vous auriez aimé que la condamnation soit plus sévère?
Alors, la difficulté de ce dossier, surtout, c'était la problématique, en fait, de la personnalité de l'individu. Puisqu'en fait, c'est un individu qui avait un lourd passé psychiatrique. 7 séjours en psychiatrie depuis 2009. Il avait été hospitalisé sans consentement depuis 2017. Et je crois que c'est ça qui posait le plus de problèmes, si vous voulez, dans le dossier.
Oui.
Puisque c'est quelqu'un qui a eu l'expert désigné a considéré qu'il avait une altération de son discernement.
Oui.
Et je crois, si vous voulez, que c'est ça qui a pesé vraiment très lourd dans la balance. Mais ce n'est que mon intime conviction à moi. Je suis intimement convaincue que s'il n'avait pas eu tous ces problèmes-là, et si l'expert n'avait pas défini pour lui une altération de son discernement, je ne pense pas que la peine aurait été celle-là.
Alors vous avez un regret permanent qui ne date pas de cette affaire. Vous aimeriez que les tribunaux reconnaissent enfin la souffrance animale.
Alors oui, c'est tout à fait ça. Parce que pour moi, si vous voulez, les animaux, ce sont des êtres sensibles. Ce sont des êtres doués de sensibilité. Et il y avait même des témoignages, notamment le premier individu qui porte plainte et qui voit se passer le vol du chat en direct, va même dire que sa chatte, puisque sa chatte avait été traînée avec le collet, la laisse bleue qu'il avait créée lui-même, qui faisait collet, l'individu disait, le propriétaire donc du chat, disait la petite chatte a été traumatisée. Vous voyez, le mot qu'il utilisait est le même mot qu'on utiliserait pour nous.
Bien sûr.
Traumatisée. Et je trouve que ce sont des êtres, si vous voulez, de sensibles, ce sont des êtres qui ressentent les choses. Il suffit d'avoir un chien, il suffit d'avoir un chat. On voit la tristesse de leur regard, on voit la joie de nous voir, on voit tout ça. Et je trouve que ne pas reconnaître le préjudice de souffrance animale, et c'est ce pourquoi moi je me bats déjà depuis quelques temps, je trouve qu'il y a quelque chose, un non-sens, parce que la souffrance animale, elle existe. Quand on se constitue partie civile, on ne demande pas simplement la réparation liée à l'objet social de l'association, là en l'espèce celle que je défendais, de protection animale. On demande aussi la reconnaissance de la souffrance animale. Parce que cette souffrance, elle existe.
Bien sûr.
Voilà. Malheureusement, pour l'instant, les tribunaux ne l'ont pas reconnu à ma connaissance.
Bien. Merci, maître. Merci, maître Catherine Berton. Nous allons revenir sur la souffrance animale bientôt, parce que je crois qu'il y a une proposition de loi qui va être discutée à l'Assemblée nationale dans quelques jours. Il est 6h53. Qu'allons-nous faire avec Anthony Morel?
Un nouvel ustensile.
Oui. Un nouvel ustensile.
Une sucette. Et oui, Anthony veut nous faire goûter une sucette ce matin.
C'est nouveau,
une
ça.
Sucette électronique capable de reproduire visiblement n'importe quel goût. C'est déjà demain et c'est dans une minute sur RMC.
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 C'est déjà demain.
Anthony Morel, bonjour Anthony.
Bonjour Jean-Jacques.
Des chercheurs japonais ont mis au point une sucette électronique. De quoi est-elle capable, cette sucette électronique?
De plein de choses, de vous de simuler fait n'importe quel goût, c'est-à-dire de vous donner l'illusion, de tromper votre cerveau, de lui donner l'illusion vous êtes en train de manger, je sais pas, une côte de bœuf grillée ou une glace au chocolat, c'est vous qui choisissez en fait. Alors vous allez le voir pour ceux qui nous regardent sur RMC. Oui, je sais, tous les amateurs, les amoureux de la gastronomie vont horrifiés, ça j'en étais sûr. Mais bon, il y a plein d'innovations en la matière, donc je voulais quand même vous en parler. Donc en gros, ça ressemble à un Big 4 couleur, je ne sais pas comment le décrire autrement. Vous avez des tubes de gel colorés à l'intérieur, donc vous mettez ça dans votre bouche. Les tubes de gel, il y en a un pour le sucré, un pour le salé, un pour l'acide, un pour l'amer. Vous choisissez le plat.
C'est impressionnant.
Images, c'est impressionnant.
C'est
assez suggestif, effectivement.
Ça ne donne pas très fin.
Ça ne donne pas très fin, c'est vrai. Et donc on choisit le plat qui nous plaît, et ce dispositif, alors qu'on appelle un synthétiseur électronique de goût, va nous le reproduire en bouche le goût du plat que l'on a choisi. Alors à quoi est-ce que ça va servir?
mais c'est débile votre truc.
Les chercheurs japonais,
les chercheurs.
Pour les gens qui font un régime par exemple, c'est pas mal parce que ça peut permettre d'avoir une petite douceur ou sucrée ou salée exemple, à laquelle on n'a pas forcément le droit en temps normal, si vous voulez. Donc ça peut être intéressant.
Certains restaurants au Japon font encore mieux. Proposent des fourchettes salantes.
Oui, absolument. Alors là aussi, pour ceux qui ont un régime pauvre en sel, par exemple, il y a effectivement, on teste ça dans les restaurants. Ce sont des fourchettes électroniques qui vont stimuler à la surface de notre langue. Alors c'est un courant électrique indolore. On ne le sent absolument pas, mais qui va venir stimuler les papilles et qui va donner l'illusion qu'on est en train de manger salé
et
alors que
encore
le plat
mieux.
N'est pas assaisonné.
Et encore mieux. Une petite gorgée de boisson virtuelle.
Exactement. Ça, c'est des chercheurs de l'université de Singapour qui ont mis au point ce verre électronique. Donc, vous mettez de l'eau à l'intérieur, mais grâce à des capsules olfactives et à des électrodes, là encore, on va venir stimuler vos papilles et vous donner l'illusion que vous êtes en train de boire du jus de pomme, un mojito, peu importe. Ça peut être intéressant. Moi, je voyais le potentiel, par exemple, dans le cinéma. On a beaucoup parlé du cinéma en odorama. Et ben là, on aura le cinéma en gustorama. Je sais pas si c'est un mot, mais où on pourrait manger ou avoir la sensation de manger eh bien, ce qui est à l'écran ou une émission de cuisine qu'on regarde à la télé. On va pouvoir tester les plats en direct à distance. Enfin, voilà. Bien, c'est dans le domaine du divertissement, je pense, que le potentiel est le plus important et qu'il y a le plus d'applications pour ces
goûts. Ça dépend des films.
Pour tous les films, Mathieu. Bon.
Merci. Merci. Anthony, Guillaume.
Oui, bonjour.
Sergi, dans le Val d'Oise.
Hein, c'est ça, tout à fait.
Et merci d'être avec nous le matin. Vous regardez la télé ou vous écoutez la radio le matin, Guillaume ?
Non, je vous écoute depuis une bonne dizaine d'années, mais plutôt en voiture.
Plutôt en voiture.
Pour l'occasion.
Vous êtes enseignant.
Plutôt en voiture.
Bon.
Enseignant.
D'accord, Guillaume. Guillaume, vous avez bien fait de jouer parce que vous avez gagné votre machine à café et les capsules qui vont avec, mon cher Guillaume.
Eh ben, super. Une belle journée qui commence alors.
Eh ben, moi, je suis très heureux. Bonne journée.
Merci, vous aussi. Merci,
Guillaume. Merci.
Au revoir.
Au revoir, Guillaume. Il est 7h.